Eh bien, courbons-nous juste un instant pour prier. Seigneur, on veut te remercier de tout cœur pour tout ce que tu fais au sein de cette Église, cette œuvre que tu accomplis qui est vraiment miraculeuse et surnaturelle. Aucun être humain peut accomplir une telle œuvre dans le cœur et dans la vie des gens. On te prie ce matin que ton esprit puisse nous guider, nous aider à bien comprendre ce message que ton Esprit Saint a donné à l'apôtre Paul, afin que nous puissions ensemble pouvoir veiller et garder, rester proche de toi, Seigneur. Alors, bénis-nous ensemble ce matin, au nom de Jésus. Amen. Il y a un auteur du nom de Kenneth Maxey qui a écrit un livre qui s'intitule « Pourquoi les Allemands ont perdu la guerre ». Et Maxey explique comment les Allemands ont commis vraiment une erreur très sérieuse. Les Britanniques ont finalement réussi à briser le code allemand. Alors, ils savaient à l'avance qu'est-ce qui allait se produire, le plan des Allemands. Les nazis se pensaient supérieurs. Ils pensaient que personne ne réussirait finalement à briser le code. Ils pensaient que leurs scientifiques et leurs experts, que c'était les meilleurs, que personne ne réussirait à briser le code. Mais ils pensaient qu'aucun mathématicien britannique réussirait à briser les codes parce qu'ils pensaient qu'ils étaient tellement supérieurs aux autres. Voici ce que Maxey dit. Les Allemands ont commis, et c'est le terme qu'il a employé, les Allemands ont commis le péché militaire fatal de sous-estimer l'ennemi. Ils avaient la prétention de se voir infaillibles et supérieurs. Et ça, c'est une grave erreur. Maxey parle donc de péché militaire, de sous-estimer l'ennemi et laisser tomber nos gardes. Eh bien, comment, enfants de Dieu, vous et moi aussi, nous sommes impliqués dans une guerre? La Bible parle de fait d'une guerre spirituelle. Et vous et moi, on fait partie, on est dans cette guerre spirituelle. C'est une guerre spirituelle qui va durer jusqu'au retour de Jésus-Christ. Et nous devons tout faire pour éviter de commettre la même erreur que Maxey a soulignée, le péché militaire, et de sous-estimer notre ennemi et manquer de prudence. D'ailleurs, nous lisons dans la lettre aux Éphésiens ce qui suit. Éphésiens chapitre 6, versets 12 et 13, ça dit, « En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. » Prenez toutes les armes de Dieu. Le caractère vraiment, c'est propre au christianisme. Le caractère fondamental du christianisme, c'est que nous sommes impliqués. Tous impliqués. Vous et moi, là, chacun d'entre nous, nous sommes tous impliqués dans cette bataille. Puis il n'y a pas de sortie à ça. Il n'y a pas d'issue à ça, jusqu'à la fin, jusqu'au retour de Jésus-Christ. À partir du moment où tu as dit oui à Jésus-Christ, à partir du moment où tu as placé ta foi en Jésus-Christ, à ce moment-là, tu es entré dans une guerre, dans une bataille spirituelle. Et chaque jour, on a besoin de se préparer pour cette bataille-là. La guerre spirituelle dans laquelle nous sommes impliqués, ça demande qu'on soit prêt et qu'on déploie tous nos efforts pour s'assurer la victoire. L'apôtre Paul en parle dans sa lettre aux Éphésiens, comme on l'a vu tantôt, mais il en parle aussi dans sa lettre à Timothée, que nous sommes en train de regarder ensemble. Rappelons-nous pourquoi Paul écrit cette lettre. Paul avait laissé Timothée dans une ville d'Éphèse. Il y avait une église à Éphèse, une église locale, l'église d'Éphèse. Il y avait certains problèmes qui s'étaient glissés dans l'Église, des fausses doctrines, des enseignements erronés, l'erreur. Et tranquillement, ça influençait les gens. Il y avait des gens dans l'Assemblée qui avaient pris le leadership de l'Église, ils avaient commencé à enseigner des fausses doctrines. Et tranquillement, non seulement eux s'éloignaient de plus en plus de l'Évangile, de la pure Évangile, mais ils étaient en train d'influencer d'autres personnes au sein de l'Église à s'éloigner de l'Évangile. Alors, Paul intervient, il dit à Timothée, écoute, tu dois arrêter ça, tu dois les arrêter, parce que là, ça n'est pas sain, ça l'empêche l'Église d'être en santé spirituelle. Tu dois intervenir, tu dois faire quelque chose. Et Paul va parler d'un bon combat à Timothée. Il va dire « combat le bon combat ». Et au sixième chapitre de la lettre, Paul va même parler de certains qui se sont détournés de la foi. Donc, ça a eu tout un impact dans l'Église d'Éphèse. Et Paul vraiment va demander à Timothée vraiment d'intervenir. On ne peut pas laisser ça aller. Alors, Paul va écrire sa lettre pour donner des conseils à Timothée. Comment remettre l'Église en ordre, comment reprendre de bons chemins, une bonne direction, corriger les erreurs au sein de l'Église. Il va toucher différents aspects jusqu'à la fin du chapitre 6. Alors, il va toucher différents aspects, mais à un moment donné, il va arrêter. On a vu ça la semaine dernière. Il va faire un détour. Juste avant d'amorcer tous les sujets, l'une à la suite de l'autre, Paul va dire, « Mais Timothée, n'oublie pas ce que j'étais et n'oublie pas ce que je suis devenu par la grâce de Dieu. » Moi, j'étais le pire des persécuteurs. Tu ne peux pas aller plus bas que ça. Je tuais des chrétiens. J'en mettais en prison, je brisais des familles. Tu peux pas, il n'y a pas personne qui va battre mon CV. Tu ne peux pas aller plus bas que ça. Mais regarde ce que Dieu a fait avec moi. Par sa grâce. Il a fait avec moi, je suis aujourd'hui un apôtre. Et un apôtre, il va même se servir du terme, un super modèle de ce que la grâce de Dieu peut faire avec un pécheur. Il dit, je suis rendu d'un top apôtre. J'ai implanté plus d'églises que tous les autres apôtres. J'ai écrit plus de lettres que tous les apôtres. Et j'ai porté plus de fruits que tous les autres apôtres. Et c'est vrai. Et il dit, tout ça, c'est à l'honneur de Dieu, c'est par la grâce de Dieu, mais c'est un trophée, ça montre ce que Dieu peut faire avec nous. Si Dieu a fait ça avec un pécheur, un si grand pécheur que ça, imagine ce qu'il peut faire avec nous. Et alors, c'est une façon pour Paul de dire à Timothée, on va toucher plein de choses, on va parler de paquets de sujets au cours de ces 6 chapitres de la lettre, mais je ne veux pas que tu oublies la raison d'être de l'Église. La raison d'être de l'Église, c'est de communiquer l'Évangile et faire des disciples. C'est ce que Dieu veut faire à travers l'Église, emmener des gens au Seigneur Jésus. Et vraiment, prendre des pécheurs et les transformer. Prendre notre monde brisé et vraiment changer, restaurer le cœur des pécheurs. C'est ça que Dieu veut faire à travers l'Église. Et Paul est en train de dire à Timothée, oublie pas ça, oublie pas la raison d'être de l'Église. D'ailleurs, c'est la première exhortation que Paul va donner à Timothée, de garder et préserver l'Évangile. Et c'est fascinant de voir comment Paul va ouvrir sa lettre à Timothée, surtout quand on sait tous les défis auxquels cette Église faisait face, et non seulement ça, la ville, la culture de la ville, mettait beaucoup de pression sur l'Église. Donc, il y avait la pression de l'intérieur à cause des faux enseignements et tout ça, et il y avait la pression de l'extérieur parce que la culture aussi avait un impact sur l'Église. Et l'Église, la ville d'Éphèse, c'était une ville qui était reconnue pour son immoralité, pour l'idolâtrie et tout ça. Et malgré ça, la première chose que Paul va faire, va dire à Timothée, tu dois corriger l'erreur et tu dois préserver, protéger l'Évangile. C'est la première chose qu'il va le dire. Parce que Paul sait que c'est seulement l'Évangile qui peut changer des vies. Il en est un exemple, il l'a dit, il vient de le dire. L'appel de Paul à Timothée, c'est très clair. Et c'est un appel qui est important pour chacun d'entre nous. Il dit « confronte directement tout ce qui pourrait nous éloigner et éloigner l'Église de l'Évangile. » Perdre l'Évangile, c'est tout perdre. Paul va jusqu'à donner 2 exemples de 2 bonhommes, finalement, qui se sont perdus, qui se sont éloignés de l'Évangile et essayaient même d'influencer d'autres personnes dans l'Église d'Éphèse à s'éloigner de l'Évangile. Ils apportaient toutes sortes d'enseignements, on va voir plus loin, Hyménée et Alexandre, leur erreur, qu'est-ce qu'ils étaient en train de propager. Alors, Paul lance tout un message important pour chacun d'entre nous. Alors, allons voir ça dans 1 Timothée, chapitre 1, et ça se trouve au verset 18. Nous allons lire 1, 18 à 20. On va terminer le chapitre ce matin. 1 Timothée, chapitre 1, verset 18 jusqu'au verset 20. D'accord? Vous êtes là? 1 Timothée 1, 18. « Timothée, mon enfant, voici l'instruction que je t'adresse, conformément aux prophéties faites précédemment à ton sujet. T'appuyant sur elles, combat le bon combat. Combat le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, Quelques-uns l'ont rejeté. Ils ont fait naufrage par rapport à la foi. C'est le cas d'Hyménée et d'Alexandre que j'ai livré à Satan afin qu'ils apprennent à ne plus blasphémer. Alors, le passage commence avec 1 Timothée 1, verset 18, où il dit « Timothée, mon enfant, voici l'instruction que je t'adresse. Conformément aux prophéties faites précédemment à ton sujet, t'appuyant sur elles, combat le bon combat. » C'est une image militaire que Paul va utiliser comme un soldat. Il dit « combat le bon combat ». C'est bien connu à l'époque, il y avait tout l'Empire romain et les soldats de l'armée romaine étaient bien reconnus. « Combat le bon combat ». Le combat, c'est de préserver l'Évangile. Maintenant, ce combat doit se livrer à deux fronts, sur deux fronts en même temps. D'abord, dans notre propre vie, on doit mener un combat dans notre propre vie, mais aussi dans l'Église. Alors, regardons, comment on fait ça? Comment on mène ce combat-là dans notre propre vie? Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, premièrement, il faut reconnaître. Ça commence en reconnaissant qu'il y a définitivement une guerre spirituelle qui est en train de se livrer pour notre âme. Ça commence là. Ça commence que j'ai besoin de réaliser qu'une guerre se livre sur notre propre vie, dans nos mariages, dans nos familles. Qu'il s'agisse d'un ado au secondaire, une personne en affaires ou des employés, il y a une bataille qui se livre tout autour de nous. Les forces spirituelles qui viennent du diable s'acharnent pour livrer vraiment une guerre à notre âme. Le diable et la bande cherchent à nous embobiner et à nous séduire, à nous inciter à nous éloigner de Dieu, parce qu'ils ne veulent pas que l'Évangile puisse résonner et retentir dans notre vie, dans notre mariage, dans notre vie de couple avec nos enfants et tous les autres domaines de notre vie. Et cette bataille va se présenter de différentes manières selon la vie de chacun. Mais on ne veut pas se laisser surprendre. Il faut veiller. Il faut être prudent. Nous sommes dans une guerre spirituelle. Alors, combattons le bon combat. Ce bon combat va se livrer en réalisant, premièrement, qu'il y a une guerre qui est en train de se livrer pour notre âme. Mais on livre également ce combat en gardant la foi. Regardez bien ce que Paul dit au verset 18. Il dit « combat le bon combat » et le verset 19 continue en disant « en gardant la foi et une bonne conscience ». Voici comment garantir que nous allons gagner cette bataille spirituelle. Paul ici nous donne la tactique efficace pour combattre le bon combat jusqu'à la fin. Maintenant, quand tu regardes le dictionnaire, puis tu regardes comment le dictionnaire va définir le mot tactique, voici ce qu'on lit. L'art de combiner tous les moyens de combat dans le cadre d'une stratégie. Et c'est ce que Paul nous donne ici. Il nous fournit la tactique pour mener ce combat jusqu'à la fin, jusqu'au retour de Jésus-Christ, afin qu'on puisse connaître la victoire et qu'on ne dérape pas comme les deux hommes qu'il va nommer, Hyménée et Alexandre, juste après, pour nous protéger. Paul va nous donner l'exemple. Il dit, regarde ce qui s'est passé avec Hyménée et Alexandre. On ne veut pas arriver là. Alors, Paul nous donne justement ce qu'on a besoin, c'est de garder premièrement la foi. Quoi qu'il arrive. Ça veut dire que lorsque tu as une épreuve dans ta vie, lorsque tu commences à douter, il faut que tu t'accroches au Seigneur. Que tu fasses confiance au Seigneur. Parce que c'est ça que ça veut dire. Garder la foi, c'est faire confiance à Dieu. C'est dire au Seigneur, je vais te faire confiance, Seigneur, quoi qu'il arrive. Je prends cette décision-là, je fais ce choix-là de te faire confiance. Alors, je livre ce combat en réalisant premièrement qu'il y a un combat qui est en train de se réaliser pour gagner notre âme, pour nous éloigner de Dieu. Il faut en être conscient, vigilant, veillé. Mais aussi, on livre ce combat en gardant la foi. Mais il y a une autre façon aussi. Paul va nous dire, en gardant aussi une bonne conscience. Maintenant, arrêtons-nous juste un instant sur ce mot-là, le mot conscience, parce que le Nouveau Testament en parle d'ailleurs. Paul va ouvrir une parenthèse dans 1 Corinthiens 8, alors qu'il écrit cette lettre, pour nous dire qu'il y a deux sortes de conscience. Il y a la conscience forte et la conscience faible. Paul va parler de ça. Maintenant, il va un peu plus loin que la notion qu'on a. On a une notion de conscience, c'est que lorsqu'on viole Lorsqu'on fait quelque chose, lorsqu'on fait quelque chose qui n'est pas correct, lorsqu'on viole la parole, la volonté de Dieu, on veut confesser nos fautes, on veut réparer notre relation avec Dieu, et on sait que Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner tous les péchés grâce au sang de Jésus-Christ. Alors certainement, ça c'est un volet de la conscience, mais il y a un autre volet de la conscience que Paul va soulever dans le passage. Il va aborder ça d'une façon vraiment fascinante. Il dit « Ceux qui ont une conscience faible sont ceux qui se font beaucoup de règles qu'en fait, la Bible n'enseigne même pas. » Ils vont se faire toutes sortes de règlements. En d'autres mots, ils ne connaissent pas assez la Bible, mais alors ils vont se protéger en créant un paquet de règlements, de règles. Ensuite, ils vont essayer d'établir une correspondance entre leur comportement et les règles qui se sont fabriquées. Maintenant, c'est exactement pourquoi les pharisiens avaient bâti des milliers de règlements. Ils ne voulaient pas violer la parole, donc les autres mettaient un paquet de lois. Mais la conscience faible, c'est qu'on va se créer des lois et on va penser que c'est biblique, alors que ça ne l'est pas. Alors, comment Paul va régler ce problème-là? Paul règle la question de la manière suivante. Il dit, c'est sûr, il dit aussi longtemps que tu penses que tu es en train de violer la conscience parce que tu penses que c'est un péché, même si ça ne l'est pas. Toi, dans ta conscience, tu penses que c'est un péché. Bien, ne le fais pas. Abstiens-toi. Ne viole pas ta conscience. Tu es convaincu que c'est un péché. Même si ça ne l'est pas. Parce que sans ça, tu vas tranquillement nuire à ta conscience. Tu vas défier Dieu, tu vas étouffer ta conscience. Néanmoins, Paul dit quand même que ces personnes-là ont une conscience faible. Une conscience insuffisamment formée, mal entraînée, une conscience qui manque de connaissance. Ceux qui ont une connaissance forte de leur côté sont ceux dont leur conception du bien, la boussole morale en eux, leur référence morale est intimement liée et alignée à la parole de Dieu. Ils sont rendus à la place dans leur vie qu'ils ont suffisamment étudié les Écritures, qu'ils savent ce qui n'est pas péché n'est pas péché, et ce qui n'est pas bien n'est pas bien. Donc, leur conscience a été comme polie au fil des années, travaillée, si bien elle est de plus en plus liée et alignée avec la parole de Dieu. Alors, ne pas vouloir faire violence à notre conscience, pour celui qui a une conscience forte, devient de plus en plus pareil à désobéir vraiment à la parole de Dieu. C'est alors que notre conscience est forte. Alors, plus on étudie la parole de Dieu, plus on la connaît, plus notre conscience sera intimement liée et fidèle à la parole de Dieu. Et c'est ça, la conscience forte. Plus nous connaissons les Écritures, plus nous aurons une conscience forte. Paul nous dit donc, pour mener le bon combat, nous avons besoin de garder une bonne conscience. Ça veut dire quoi? D'obéir au Seigneur, de marcher avec Dieu. Et il y a une raison pour laquelle Paul va mettre ces deux éléments ensemble, garder la foi et puis garder une bonne conscience. Regardez ce que ça veut dire dans le quotidien tous les jours. Ça, c'est-à-dire que, indépendamment de ce qui va arriver dans ta vie, même lorsque tu passes à travers des moments difficiles, tu dis au Seigneur, « Seigneur, je vais te faire confiance. Je suis confiant que tu sais ce qu'il faut dans ma vie. » Et dans les situations où on ne s'entend pas, où on ne va pas pareil, moi, j'aimerais ça sortir de ça, j'aimerais ça sortir de cette épreuve-là au plus vite, j'aimerais ça courir. Je sais qu'au bout de ligne, toi, tu vas prendre même des difficultés dans ma vie, même les drames de ma vie. Tu vas prendre ça et la Bible dit, « Toute chose concourt au bien, je vais de celui qui aime Dieu. » Je vais te faire confiance, Seigneur, que ma vie est entre tes mains. Et toi, tu connais plus que moi. Tu sais ce qui se passe. En fait, quand tu regardes des gens qui n'obéissent pas au Seigneur, on se rend vite compte que ça commence très souvent en ce que les gens cessent de faire confiance à Dieu. À ce moment-là, ils reculent, ils cessent de lui faire confiance. Mais le Seigneur nous dit, garde la foi. Fais-moi confiance. La foi, c'est accepter que Dieu est au contrôle, qu'il contrôle l'histoire, qu'il a tout entre ses mains, qu'il est tout puissant, qu'il nous aime et qu'il ne nous abandonnera jamais. C'est ça la foi. Garder la foi, c'est de reconnaître que je suis un pécheur, j'ai une nature pécheresse. Donc, ma lecture des événements et tout ce qui se passe, elle est biaisée. Dieu sait mieux que moi ce qui est bien pour moi. j'ai une nature pécheresse. Et à cause de cette nature pécheresse, ça détruit mes plans, ça nuit à notre bonheur, ça endommage nos relations. Et il faut le résoudre. Et le seul moyen de le faire, c'est d'aller à la croix. Garder la foi, c'est croire que ce que Jésus a accompli à la croix est là pour couvrir, pour pardonner mes péchés. C'est là que nos péchés ont été transférés sur ses épaules et sa justice m'a été donnée. La foi que la résurrection de Jésus nous donne la vie, que Jésus vit maintenant en nous. C'est ça que dit Colossiens 1:27, ça dit « Christ en vous, l'espérance de la gloire ». C'est la foi de croire qu'en toutes circonstances, Jésus nous donnera la sagesse et la puissance dont on a besoin pour vivre selon sa volonté, une vie qui va lui ressembler, et de croire que Dieu accomplit ces choses. Alors en lui, on a toutes les ressources, on a toute la puissance qu'il faut pour vivre pour lui. Alors Paul nous dit, accroche-toi à ces vérités-là. C'est ça, garder la foi. Accroche-toi à ces vérités-là. Ne t'écarte pas de cette vérité-là. Ne le perds pas, c'est le terrain sur lequel repose notre sécurité. Voilà, dit Paul, comment combattre le bon combat dans notre propre vie. Premièrement, on reconnaît qu'il y a une bataille qui est en train de se livrer dans ma vie. Je ne veux pas m'endormir là-dessus. Je veux être conscient de ça, qu'il y a un combat. Je veux rester vigilant. Je veux mener ce combat-là dans ma vie en gardant la foi, même dans les temps difficiles, de faire confiance à Dieu, que Dieu est là et ma vie est entre ses mains. Je veux aussi garder une bonne conscience. C'est-à-dire obéir à sa volonté, à sa parole. Mais on mène le combat aussi dans l'Église. Paul va commencer à parler de deux bonhommes. Il va parler de deux gars. Là. Il dit, c'est deux gars-là qui ont vraiment dérapé. Là. Et quand ça arrive, on a besoin d'intervenir. Paul exhorte Timothée à intervenir devant ces deux hommes-là. Voici deux personnes qui ont connu un bon départ. Certains pensent que c'était des anciens, même dans l'Église. Mais ils sont tranquillement éloignés de l'Évangile. Ils ont cessé de faire confiance à Dieu, puis de l'obéir, de marcher avec lui, puis ils ont commencé à enseigner des fausses doctrines. Maintenant, certaines personnes commencent bien, mais avec le temps, elles commencent à dériver parce qu'elles cessent de faire confiance à Dieu et de marcher avec Dieu. On commence à déraper et à croire. On cesse de croire que Dieu en connaît plus que nous. On pense que nous-mêmes, on peut mener notre vie, là, puis ça va bien aller. En fait, on est en train d'étouffer, finalement, cette réalité-là de cette guerre spirituelle. Verset 19 dit, « Cette conscience, quelques-uns l'ont rejetée, et ils ont fait naufrage. » C'est l'image d'un bateau qui est en train de couler par rapport à la foi. C'est le cas d'Hyménée d'Alexandre que j'ai livré à Satan afin qu'ils apprennent à ne plus blasphémer. Deux hommes. Le nom Hyménée va revenir dans la deuxième lettre de Timothée. Ça nous permet de comprendre un peu c'est quoi l'erreur qu'il propageait, la fausse doctrine. On lit dans 2 Timothée chapitre 2, verset 16, « Évite les bavardages profanes, car ceux qui s'y livrent avanceront toujours plus dans l'impiété. Et leur parole propagera son infection comme la gangrène. C'est le cas d'Hyménée et Philette. Et ils se sont détournés de la vérité en affirmant que la résurrection est déjà arrivée. Et ils ébranlent la foi de certains. » Les autres commençaient à répandre dans l'église d'Éphèse que la résurrection était déjà arrivée. Alors imaginez, là, les jeunes dans l'assemblée, ils n'étaient pas ressuscités. Alors ils pensaient que c'était une bande à part, que ce n'était pas assez spirituel, que ça n'allait pas bien. Voyons, là, ça ébranlait la foi de certains. Et Paul, il dit, voyons, c'est ridicule. Alors qu'est-ce que Paul va faire? Et ce n'est pas la seule chose, hein, ce n'est pas les choses qu'il répandait. On voit hier dans la lettre de 1 Timothée qu'on enseignait qu'il ne fallait pas se marier, qu'il y avait certains aliments qu'il fallait s'abstenir. C'est de la foutaise, c'est tout faux, cette affaire-là. Alors, qu'est-ce que Paul va faire? Il va les discipliner. Il dit, j'ai livré, au verset 20, j'ai livré à Satan afin qu'ils apprennent à ne plus blasphémer. Maintenant, c'est une grosse expression, livrer à Satan, mais ça veut simplement dire, je les ai mis excommuniés de l'Église. Je les ai sortis de la communauté de l'Église. Ça veut dire, je les sors du parapluie de la bénédiction de Dieu qui est l'Église. Je les sors de la communauté, de la communion fraternelle, de la protection de Dieu. Dans ce sens-là, je les livre à Satan. Maintenant, c'est une mesure disciplinaire. Puis il y a des gens, des fois, quand on prend, on ne l'a pas fait souvent, mais quand on amorce un processus de discipline au sein de l'Église, tout de suite, on reçoit des critiques, des courriels et tout ça, comme quoi, « mon ami, vous manquez d'amour. » Et pourtant, Paul, ici, nous aide à comprendre que c'est une marque d'amour, c'est une méchante marque d'amour. Au-dessus, la mesure disciplinaire est en fait une mesure éducative. C'est une école. C'est pas agréable faire ça. On fait ça avec des larmes. C'est vraiment terrible. Tu sais, c'est pas agréable. Mais il faut revenir aux Écritures. Puis regardez ce que les Écritures disent. Dans 2 Timothée 2, 25, on apprend quelque chose de très sérieux ici. Il dit, il doit corriger avec douceur les adversaires. Peut-être Dieu leur donnera-t-il de changer d'attitude et de connaître la vérité. Revenus à leur bon sens, ils se dégageront alors des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Regardez à quel point c'est un manque d'amour de ne pas prendre, de ne pas amorcer cette discipline-là, de laisser les gens faire ce qu'ils veulent et propager l'erreur comme Hyménée faisait. C'est que tu laisses les gens être piégés par le diable. Ça, c'est un manque d'amour. Tu ne veux pas ça. Tu veux intercéder pour la personne, prier pour la personne. Tu cherches à la gagner, à la sortir des griffes de l'ennemi. Alors, Paul espère que l'expulsion de ces hommes, de la communauté croyante, va ramener ces deux leaders-là à leur bon sens et va les convaincre de cesser de s'opposer à l'Évangile. Alors, j'ai livré à Satan afin qu'ils apprennent à ne plus blasphémer. Le message de Paul est parfois que l'Église devra prendre des mesures disciplinaires afin de protéger l'Évangile, protéger l'Église. Alors, accroche-toi à l'Évangile, dit Paul. C'est la seule chose qui va unir l'Église et c'est la seule chose qui va soutenir le peuple de Dieu dans les moments difficiles. Et c'est seulement l'Évangile qui peut avoir un impact dans la vie des pécheurs comme il a eu envers moi, dit Paul, le pire des pécheurs. Un persécuteur de l'Église. C'est l'Évangile. Si tu enlèves l'Église, si tu enlèves l'Évangile, on n'a plus besoin, on n'a plus raison d'être ici. C'est l'Évangile qui va faire la différence. L'Évangile est la puissance de Dieu. Alors, c'est un Évangile qui vaut la peine de garder et de défendre. Et c'est un Évangile qui mérite d'être célébré pour toujours. Alors, combat le bon combat. Et Paul dit, c'est un bon combat. C'est un beau combat. Et nous avons la meilleure cause. On a le meilleur général, le capitaine de notre salut qui est Jésus-Christ. On a la meilleure armure. On a une source abondante d'approvisionnement avec la puissance du Saint-Esprit. On a les meilleurs alliés qui combattent pour nous. Pensons à ce passage de l'Ancien Testament, que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Qui a déjà eu de tels compagnons d'armes? Qui a déjà livré une bataille avec autant de succès? Qui a déjà gagné de si riches récompenses? Qui a déjà remporté un tel poids de gloire? Vraiment une belle image que Paul va employer dans 2 Corinthiens. Alors qu'il dit, voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Si même notre extérieur se détruit, notre âme intérieure se renouvelle de jour en jour. En effet, nos légères difficultés du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Alors imaginez, c'est comme une balance, puis ça compare les épreuves auxquelles on peut faire face, et après ça, toute la gloire réservée pour les enfants de Dieu. Puis il dit, ça ne se compare même pas. C'est un poids éternel de gloire. Ainsi, dit Paul, nous regardons non pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible, car les réalités visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Alors combattons le bon combat, gardons la foi et une bonne conscience en toutes circonstances. Il y a une femme qui a appris vraiment cette leçon-là, c'est Corrie ten Boom. Je ne sais pas si vous avez lu des livres de Corrie ten Boom. Corrie ten Boom était avec sa sœur Betsy dans un camp de concentration nazi. Le Ravensbrück, et le camp de concentration, les baraques où étaient logées les femmes comme Betsy et Corrie ten Boom étaient infectées de puces. À imaginer, infectées de puces. Ils ont réussi à infiltrer une Bible en secret, en cachette, personne ne le savait. Et là, ensemble, les femmes dans les baraques ont commencé à lire la Bible en cachette. Et là, Betsy, la sœur de Corrie ten Boom, elle a découvert en lisant les Écritures que Dieu nous demandait de lui rendre grâce en toutes circonstances. Alors Betsy regarde sa sœur, Corrie ten Boom, et lui dit, « Corrie, il faut rendre grâce en toutes choses. Et nous qui sommes ici dans le camp de concentration, là, pour nous, là, Ça veut dire de rendre grâce, de remercier le Seigneur pour les puces. Aïe, 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 et Corey a dit, ben voyons donc. Voir si je vais louer le Seigneur, remercier le Seigneur à cause des puces. Il n'y en est pas question. Et là, Betsy, elle se faisait insistante, elle continuait à lui dire, non, regarde, c'est écrit dans les Écritures, il faut remercier le Seigneur pour les puces. Elle dit, mais ça n'a pas de bon sens. Et tranquillement, tant bien que mal, tranquillement, Corey s'est laissé gagner. Puis Corey Ten Boom a remercié le Seigneur pour les puces. Et là, ce qui est arrivé, eux autres ont commencé à faire des études bibliques dans la baraque. Ils lisaient les Écritures, ils priaient ensemble. Et ce qui est arrivé, finalement, c'est que plusieurs femmes sont venues au Seigneur, ils ont placé leur foi en Jésus-Christ à cause de ces études-là. Ils ne comprenaient pas, ils étaient tranquilles dans les baraques et les gardes n'entraient pas dans les baraques. Ils ont découvert, plus tard, que les gardes n'entraient pas dans les baraques à cause des puces. Donc, les femmes ne se sont pas faites violer et ils ont pu lire les Écritures tranquilles, sans être dérangées. Et plusieurs femmes sont venues au Seigneur grâce à ça. Amen. Imagine-toi, lorsque tu passes à travers des épreuves, lorsque tu pars par des temps difficiles, rappelle-toi des puces à Ravensbrück, comment Dieu était là, au contrôle, et en fait, grâce aux puces, il est en train de protéger ses enfants. Amen. Gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Eh bien, Seigneur, nous voulons te remercier de tout cœur pour tous ces beaux clins d'œil qu'on a, comment tu es attentif et combien de choses qu'on ne sait même pas. Et tu es là, ta bonne main est sur nous et tu nous protèges et tu nous gardes. Oh Seigneur, merci pour tes bons soins, pour ta fidélité, ta grande bonté. Et on veut se rappeler cette semaine, alors qu'on amorce cette nouvelle semaine qui commence, on veut se rappeler que nous sommes dans un combat et nous voulons livrer ce combat. C'est un bon combat. C'est un beau combat, Seigneur. Alors on veut garder la foi. On veut garder une bonne conscience et marcher avec toi, pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen.